Europe 1.
Bienvenue dans les interviews du vendredi d'Au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dominique Lebrun, écrivain, journaliste et grand spécialiste de la marine. Bonjour Dominique Lebrun.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de très nombreux livres sur les bateaux, sur les expéditions marines et votre dernier livre, L'épopée viking, est paru aux éditions Vuibert. Alors, je voulais voir avec vous un petit peu, parce qu'on va parler de navigation. Quand est-ce que commence l'histoire de la navigation? Est-ce qu'il y a une volonté des hommes d'aller voir au-delà et pourquoi on le fait?
On va dire que dès qu'un homme s'est trouvé devant, on peut dire une rivière sur laquelle il pourrait se laisser emporter sur un tronc d'arbre, un radeau, un rivage allongé, une pièce d'eau à traverser, il y a eu la nécessité, je pense que c'est par nécessité qu'on a été sur l'eau. Alors maintenant, aller de l'autre côté de l'horizon, ça m'a toujours semblé un très très grand mystère. Je pense quand j'étais gamin que j'ai appris à naviguer dans un petit port de pêche, j'ai entendu un jour un vieux me dire oh, « qui va en mer pour son plaisir irait en enfer pour passer le temps ».
Ce qui veut dire qu'effectivement, des vieux marins.
Oui, je pense que c'est un peu contraint et forcé qu'on a été de l'autre côté des mers, pour des raisons commerciales aussi, bien entendu. Mais l'esprit d'aventure en tant que tel, c'est un plaisir de riche qui est venu à une époque où on avait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup navigué.
D'accord, oui, effectivement, comme le prince Albert Ier de Monaco,
par
qui
exemple,
a fait des grandes expéditions. Plaisir de riche, mais plaisir scientifique aussi.
Tout à fait.
Alors, mais avant d'en arriver à Albert Ier de Monaco, prenons l'un des grands pionniers que tout le monde connaît, qui est Christophe Colomb, qui a découvert l'Amérique. Or, il ne cherchait pas du tout à découvrir un nouveau continent, il voulait aller en Inde. Dans quel contexte se situe cette découverte?
Eh bien, ça nous ramène à ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours une notion d'intérêt qui amène à aller plus loin. Et à l'époque, donc 1492, c'est la fin du Moyen-Âge, et c'est le moment où on va passer à la Renaissance. C'est une époque où pour les grands de ce monde, le luxe est une nécessité, une habitude. La soie et les épices ont une valeur considérable. À l'époque, je crois que le poivre vaut plus cher que l'or.
Oui.
Et donc, à l'origine et depuis l'Antiquité, les routes de la soie qui traversent le continent ou des navires navigateurs arabes encore traversent l'océan Indien, ça nous arrive dans l'Est de la Méditerranée, où Venise les prend en charge, les distribue ensuite en Europe. On s'est dit en Europe qu'il serait peut-être plus simple et moins coûteux d'aller à la source. Les Portugais, de leur côté, vont créer une route en faisant le grand tour de l'Afrique. Et Christophe Colomb, lui, va dire « mais non, il ne faut pas faire comme ça, la Terre est ronde. Donc partons dans l'autre sens, ce sera beaucoup plus court ». Pas de
donc,
chance.
En plus, il pensait que c'était plus court, c'est ça qui est incroyable.
Oui, il y a deux choses. Christophe Colomb ne savait pas que la Terre est plus grande qu'elle est, et surtout, il n'imaginait pas qu'entre l'Asie et l'Europe, il y avait un autre continent, qui est donc la fameuse Amérique.
Donc, c'est une découverte totalement incroyable quand on y pense, et quelle audace il fallait avoir. Mais, et donc, en découvrant un nouveau continent, bah, il va falloir cartographier l'intégralité de la planète pour la comprendre. Donc les explorateurs qui sont partis explorer les terres les plus inhospitalières ont aussi fait beaucoup de découvertes. Et par exemple, il y a un truc qui est quand même assez étonnant, c'est la conquête des pôles. Qu'est-ce qui va motiver le fait d'aller dans ces zones aussi terribles?
Eh ben, c'est la suite de l'histoire. Il s'agit toujours de trouver une route très courte vers l'Asie.
Ah oui?
Alors, dans le cas de l'Arctique, donc le pôle Nord, l'idée est la suivante. Imaginez qu'on a cru longtemps qu'au-delà d'une certaine latitude, ayant franchi une barrière de banquise, on arrivait sur une eau calme, sans glace et avec un climat radieux. C'est la théorie de la mer libre du pôle. Et tenez-vous bien, dans les années 1600 à Paris, se crée une compagnie qui s'appelle la Compagnie du Nord Arctique, qui a déjà prévu les droits de passage pour emprunter cette route qui permettait effectivement d'aller en Asie, comme les avions le font maintenant d'ailleurs, en passant par le nord du pôle. Alors pour le sud, l'Antarctique, là c'est une autre histoire. À l'époque où se créent les empires coloniaux et où des pays comme l'Angleterre ont un besoin de trouver de nouveaux territoires pour leur population, c'est pour ça qu'ils vont donc émigrer en masse aux États-Unis, ce qui deviendra les États-Unis, il y a la recherche d'un continent qu'on appelle le continent austral. C'est la légende qui a déterminé qu'il existait, on en parle depuis la Grèce antique. On le pense situé quelque part entre la Polynésie et l'Australie.
D'accord.
Mais lorsque Cook va faire son premier voyage, il ne trouvera rien. Bougainville, en son tour du monde, ne trouvera rien non plus. Cook va faire un deuxième voyage pour trouver spécifiquement ce continent. Il va faire le tour des mers du Sud en rasant partout la banquise et arriver à la conclusion que non, il n'y a rien. Sauf que il a vu des icebergs géants qui ne peuvent provenir que de glaciers montagnards. Donc, il dit, il y a un continent, mais de toute façon, il sera invivable. Donc, n'essayons pas de le conquérir. Et à partir de là, c'est la science, effectivement, qui va justifier l'explorer. La science plus le nationalisme, c'est-à-dire celui des Anglais et surtout celui des Norvégiens. Donc, Amundsen arrivant le premier au pôle sud, comme on le sait.
C'est vrai qu'on ne sait pas assez que les pays du Nord ont aussi fait des expéditions. On a ce côté très centré autour de la Méditerranée.
Tout à fait.
Et alors, au XXe siècle, on peut considérer que l'exploration de la surface des océans est terminée, donc il va rester l'exploration des fonds marins. Donc, bien sûr, on va laisser de côté la recherche biologique et les animaux qui ne sont pas au cœur de notre sujet historique, même si c'est passionnant. Mais du coup, en allant explorer les fonds, on va aussi chercher des épaves.
Oui, il y a quelque temps, parce que maintenant on sait que ce n'est pas vrai, on pensait qu'il existait dans les épaves réparties dans tous les océans du monde plus d'or qu'on ne pouvait en trouver dans le sous-sol non encore exploré.
C'est les galions espagnols qui ont coulé, c'est ça ?
Entre autres, et je vais vous donner quelques chiffres que j'ai repérés pour répondre à votre question très précisément. L'épave du San José, qui a coulé en 1708 au large de la Colombie, on estime que sa cargaison vaut 3 milliards d'euros.
Ah oui.
Nuestra Señora de las Mercedes, 1804 au large du Portugal. On pense qu'il y a 15 tonnes d'argent et d'or.
Incroyable.
Donc les chercheurs de trésors aujourd'hui, ce sont des structures multinationales qui sont cotées en bourse éventuellement, qui engagent des fonds absolument colossaux, mais pour des retours qui peuvent être aussi absolument énormes.
Donc vous voulez dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui cherchent ces deux épaves ?
Mais alors ces deux épaves-là sont trouvées, ce sont maintenant des problèmes plus d'ordre juridique.
D'accord.
Quant à savoir à qui elles appartiennent et par conséquent qui a intérêt à investir ou ne pas investir.
Mais on sait déjà qu'il y a de l'argent dedans ou pas ?
Ah tout à fait. Il existe encore des tas d'autres épaves qui ont été à peu près localisées, dont on sait ce qu'elles transportaient, parce que la recherche, les chercheurs de trésors aujourd'hui travaillent d'abord en bibliothèque.
Évidemment. Tout commence en bibliothèque.
Tout commence en
bibliothèque. Bien quand on est historien. Alors, qu'est-ce que les épaves nous apprennent aussi sur l'histoire ? On pense au débarquement en Normandie, à la bataille de Dunkerque en 1940, dont Christopher Nolan a fait un film.
Oui.
Et donc, est-ce qu'on a des épaves de cette époque ? Est-ce qu'elles sont fouillées ? Qu'est-ce qu'elles nous disent en plus de ce qu'on connaît déjà ?
Bien, la question est bien posée, puisqu'il me semble que si ce n'est pas l'été dernier, c'était l'été précédent, le DRASM, c'est-à-dire l'organisme français qui s'occupe de l'archéologie sous-marine, a mené une grande campagne devant les plages du débarquement pour faire un pointage très précis de tout ce qui est sous l'eau. Alors maintenant, qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur le débarquement de Normandie, par exemple ? C'est intéressant de voir où et quand et comment certaines embarcations ont fait naufrage. Est-ce que c'était du fait des tirs allemands depuis la côte ? Est-ce que c'était du fait de l'état de la mer qui était très mauvais ? Je pense notamment aux chars d'assaut amphibies, parce qu'il y en avait, dont pratiquement aucun n'est arrivé. Ce sont les enseignements qu'on peut en tirer. Mais au-delà de là, de ça, peu de choses, sauf pour dans d'autres cas où on a des mystères. Je connais l'histoire en Méditerranée de 5 épaves qui sont autant de camions qui viennent de l'Afrique à Corse et qui étaient chargés d'or et dont le bateau qui est transporté a fait naufrage quelque part vers la Corse et la Sardaigne. On ne sait pas si c'est une légende, une vérité. Peut-être qu'on a réussi à déterminer où ils sont. Si d'aventure en plongeant on les trouvait, on aurait la solution, un petit mystère comme l'histoire en recèle plein.
Ah oui, c'est ça qui est passionnant, il reste plein d'explorations à faire. Bon, je ne peux pas achever cette interview de Dominique Lebrun sans vous parler du Titanic, une histoire qu'on adore raconter au cœur de l'histoire. Pourquoi, selon vous, ce naufrage est devenu mythique ?
Eh bien, parce qu'il survient au moment où l'homme est convaincu d'avoir dépassé toutes les forces de la nature. Et on construit donc ce bateau qui est réputé incoulable, insinkable. Et puis, on est tellement confiant qu'on ne prend même pas les moyens de... Et puis, ça arrive. Et ça arrive de manière complètement bête. Et donc, à partir de là, ça devient un mythe. Il y a aussi l'histoire de ces passagers qui n'étaient quand même pas n'importe qui, puisqu'on avait à la fois des grandes fortunes et des migrants. Et puis, tout naufrage, de toute façon, génère un mystère absolument passionnant. Et celui-là, encore plus, évidemment.
Donc on a retrouvé l'épave du Titanic dans les années fin 80, il me semble. Donc on commence à remonter depuis quelques années des objets, des expéditions qu'on fait vers le Titanic. Qu'est-ce qu'on en fait de ces objets ? Qu'est-ce qu'ils deviennent ?
Eh bien, cette question me fait penser à ce qui s'est passé lorsqu'on a trouvé l'épave, qu'on a explorée, même avec des sous-marins à haute profondeur. La question s'est posée tout de suite. Est-ce qu'on remonte quelque chose, et il y a eu un mouvement d'opinion disant non, 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 ce serait une profanation de sépulture. Finalement, on a remonté pas mal d'objets, à ma connaissance, de peut-être plus de 6 000, 6 500 peut-être, qui sont en traitement électrolytique pour enlever la gangue qu'il y a par-dessus. Il y a eu une première vente, si j'ai bonne mémoire, qui a tiré quelques succès. Mais je sais qu'actuellement, peut-être que ça a un côté trop sordide, je ne sais pas. Mais le fait est que ça ne se vend pas comme on pensait que ça se serait vendu. Et
ah oui.
À l'inverse, des cargaisons, par exemple, de porcelaine de Chine du XVIIe siècle ont été trouvées et ont été vendues, mais de véritables fortunes à Londres.
C'est amusant ça, parce que je pensais aussi que tout ce qui sortait du Titanic s'envolait en vente aux enchères.
C'est ce que l'on croyait et en fait, non, ça n'a pas le résultat escompté.
D'accord. Oui, il y a un côté, effectivement, je suis d'accord, profanation.
Je pense.
C'est comme à Pompéi.
Pense.
Alors, vous avez écrit votre dernier livre sur les Vikings. Alors, est-ce que les Vikings étaient des grands navigateurs? Est-ce qu'ils sont allés au-delà de leur territoire, coloniser des terres?
Ah ben oui, eh bien oui, on a même eu beaucoup de mal à comprendre comment ils ont pu traverser l'Atlantique 5 siècles avant Christophe Colomb. Pourtant, pour moi qui connais la question viking, ça coule de source. Moi, ce qui m'émerveille chez eux, et c'est le fond de mon livre, c'est cette même civilisation qui va être capable de traverser l'Atlantique. Ça, ce sont de Norvège surtout. Les Danois qui vont être capables d'installer en France, qu'ils ont pillé avec un talent rare, un pouvoir administratif dans ce qui s'appelle la Normandie, qui est absolument merveilleux. Et les troisièmes, ce sont les Suédois qui carrément vont donner leur premier tsar à la Russie.
Ah oui.
Donc, absolument, absolument. La légende veut que les populations russes leur aient demandé d'administrer leur territoire parce qu'ils savaient le faire. En fait, non, ils les ont envahis.
Mais évidemment.
En traversant l'Europe par les canaux, par les rivières et par les lacs, ils ont quand même atteint Constantinople.
Ah oui, ça fait un sacré chemin.
Donc le territoire viking, c'est de Constantinople à Terre-Neuve. C'est pas rien.
Incroyable, moi qui pensais que l'Empire romain avait tout fait, en fait, vous les challengez avec les vikings.
Et ben voilà.
Merci Dominique Lebrun pour cette interview passionnante. Je rappelle que votre dernier livre, L'épopée viking, est paru aux éditions Vuibert. Chers auditeurs, vous avez aimé les interviews du vendredi? Abonnez-vous au podcast Au cœur de l'histoire et mettez-nous 5 étoiles, ça nous fera plaisir et on continuera à travailler pour vous. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Imbert qu'on retrouve à la direction artistique avec Julien Tarot.